Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Elles ont osé, proposé par Les Échos. Elles ont osé et elles ont réussi. Elles, c'est nous. Nous, audacieuses, ambitieuses, résilientes, expertes, puissantes, courageuses, peu importe. Nous, telles que nous sommes, libres, libres d'être nous-mêmes avec nos choix, nos actions, notre impact. Dans ce podcast, vous entendrez le regard croisé de deux femmes inspirantes qui ont su saisir les opportunités de la vie. Deux parcours, deux générations, deux chemins qui forcément se croisent. Vous découvrirez leurs moments clés pour aller toujours plus haut, être à leur juste place, guidés par leur envie de contribuer à un monde meilleur. Merci d'être avec nous. Je suis Marie-Éloi, entrepreneure et présidente de plusieurs réseaux féminins. Femme des territoires, pour créer son entreprise. Bouge ta boîte, pour du business avec du sens. Et Bouge ton groupe, pour les femmes cadres et managers. Aujourd'hui, je reçois deux pionnières du monde de demain qui contribuent avec toute leur énergie et beaucoup de charisme à la transformation de nos entreprises et de notre société économique et financière. Bonjour Catherine Barba.
Bonjour Marie.
Vous êtes serial entrepreneure, une des pionnières du numérique, qui vous a souvent d'ailleurs valu le surnom de mamie du web alors que vous ne ressemblez en rien à une mamie. Vous avez été directrice générale de e-France, vous avez notamment créé Cashtor ou encore le cabinet de conseil Malinéa. Vous êtes également investisseuse dans une vingtaine de sociétés et vous revenez de 5 ans d'inspiration aux États-Unis avec dans vos bagages un nouveau projet, la première école des indépendants rentable, et on en parlera tout à l'heure. Bonjour Eva Sadoun.
Bonjour.
Vous êtes présidente et cofondatrice de Lita.co, la plateforme d'investissement participatif qui permet à tout le monde, qu'on soit particulier ou professionnel, d'investir dans des projets engagés dans la transition sociale et écologique. 140 projets ont ainsi été financés via 60 millions d'euros recueillis. Vous avez également lancé Rift fin 2020. C'est une application qui nous permet de connaître ce que finance notre épargne, notre livret A ou notre assurance vie par exemple. Avec déjà 25 000 membres en 6 mois, vous avez au total 60 collaborateurs et vous êtes également coprésidente du mouvement Impact France, réseau d'entreprises engagé avec 9 000 adhérents. Ensemble, Catherine Barba et Eva Sadoun. Oui, hein.
Déjà là, on est...
Toutes les deux, mon Dieu.
Ouh la vache, le niveau. Ça commence par...
Toutes les deux, j'espère qu'aujourd'hui, on vous donnera envie, à vous qui nous écoutez, de porter haut et fort vos convictions pour qu'elles infusent autour de vous et transforment avec impact. Catherine Barba, on commence avec vous.
Allez.
Vous avez accepté de partager deux moments clés. Deux jours où votre vie a basculé. Le premier jour où... Nous sommes en 1995, ça remonte, ça fait déjà il y a 26 ans. Vous découvrez par hasard l'existence d'Internet, vous n'y connaissez rien. Et vous décidez de faire votre mémoire dessus, ce qui va complètement transformer votre vie.
C'est ça. 1995, il y a encore des dinosaures. Il n'y a certainement pas encore beaucoup d'Internet. Je suis en école de commerce en dernière année, enfin en deuxième année. Et on nous dit, il faut que vous réfléchissiez déjà à votre sujet de fin d'études, mémoire de fin d'études. Je n'ai aucune idée. J'hésite encore entre un mémoire sur les paradis fiscaux ou le business de la planche à voile. J'ai aucune idée. Et puis tout d'un coup, je tombe par hasard. C'est important le hasard. Sur un concours dans Télérama, organisé par le syndicat de la presse. Et ça s'appelle l'arrivée d'Internet et son impact, surtout, notamment sur la lecture de la presse. Je me dis, c'est génial ce truc, je vais en faire mon mémoire de fin d'études. Et il y avait une coquette somme d'argent à gagner pour le premier prix. Et je commence à explorer, découvrir. Il n'y avait personne à l'époque qui utilisait Internet en France, enfin très peu. Et j'ai commencé à rencontrer les personnes qui y travaillaient et construire un mémoire. Et voilà, long story short, comme on dit, je gagne le premier prix. Et ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie parce que je pense que si j'avais jamais fait ce devoir, ce mémoire, ce sujet, je serais évidemment venue comme tout le monde à Internet un jour ou l'autre, mais pas avant. Et puis, j'aurais peut-être commencé ma vie professionnelle dans le private equity ou le luxe, tu vois, comme faisaient beaucoup de gens de ma promo. Et donc, j'ai gagné le premier prix. Et la présidente du jury, c'était Viviane Pratt, qui dirigeait un groupe de médias qui s'appelait OMD, dans le groupe Omnicom. Et elle m'a dit, nous, Internet, on ne connaît pas bien, mais vous avez l'air un peu débrouillarde. Si vous voulez développer, donc c'était intrapreneur, eux, sans le dire, tu vois, eh bien, venez. Et je me suis posé aucune question. Et ça m'a enthousiasmée. Donc, ça a vraiment changé ma vie. Et je m'en souviens beaucoup de ce moment, avec beaucoup de douceur, quoi.
Donc, vous avez gagné le prix, plus un job, plus ça a transformé votre vie. Vous avez créé par la suite trois boîtes, dont la première en même temps que la naissance de votre fille, d'ailleurs. Arrive le deuxième jour où votre vie change, Catherine Barba. Vous êtes entrepreneure à succès, incontournable en France dès lors qu'on parle entrepreneuriat ou digital. Vous avez bien vendu votre dernière entreprise à VP et pourtant, ça ne va pas très fort, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous dépérissez complètement et là, vous décidez de tout plaquer. Racontez-nous.
Ouais, je dépéris, tout est relatif. Hein, mais c'est vrai que je...
C'est ce que vous m'avez dit quand on a préparé.
Mais c'est vrai, je me dis que quand on est entrepreneur, on passe beaucoup de temps à espérer vendre son entreprise un jour. Ou à entrer en bourse, enfin on a envie d'avoir un exit. Et le jour où ça arrive, c'est pas aussi exceptionnel que ce qu'on imaginait. Parce que quand on a atteint son but, il faut trouver du souffle pour aller encore plus loin. Et moi, je ne suis pas très heureuse à ce moment-là. Et puis j'ai cette envie de souffle, d'autre chose. Parce que quand tu es dans un marché depuis longtemps, ça fait donc longtemps que je suis sur Internet, je connais tout le monde. Tu sais, c'est un peu toujours les mêmes usual suspects. À chaque fois qu'on parle d'entrepreneuriat, entrepreneuriat féminin, et tu es toujours dans le potage et tout le monde te connaît. Et tu as tôt fait de croire que tu es arrivé quelque part, tu vois, quand ça arrive ça. Et moi, j'aime pas ça. Je pense que l'humilité, c'est une des plus grandes vertus. Et je me suis dit, c'est chouette de se dire, je vais sortir de là, je vais recommencer complètement autre chose. Je vais aller découvrir, continuer à apprendre, me mettre en risque, parce que j'aime bien ça, en fait. Et puis, j'avais ce vieux rêve des États-Unis. Et donc, j'ai forcé. Et ça, c'est pas bien dans un couple, c'est pas bien. J'ai forcé mon mari à venir aux États-Unis et ma fille. Bon, les enfants, tu les embarques. Et donc, ce jour-là, je me suis dit, mon histoire, il faut que j'aille ailleurs. Tu vois, je vais me mettre en risque. Je vais apprendre, je vais aller puiser du souffle ailleurs. Donc, je suis partie aux États-Unis. Et ça a changé ma vie. Parce que j'avais une quarantaine d'années. Je ne pensais pas qu'à cet âge-là, tu puisses à nouveau autant apprendre, rencontrer des gens qui changent autant ta vie, qui deviennent des amis du cœur, et puis faire autant de choses nouvelles. Donc, ça m'a appris qu'on pouvait, à tout âge, continuer à apprendre et à s'émerveiller.
Trop beau. Vous êtes rentrée il y a quelques mois de New York. Vous avez notamment créé là-bas un observatoire du travail et le WIN Forum, un événement pour valoriser les femmes et l'innovation. Eva Sadoun, à vous. Le jour où tout a basculé pour vous, c'est le bac. Vous avez toujours été engagée sur les questions sociales, les minorités, la finance. Vous passez alors le bac que vous n'obtenez pas du premier coup. Vous êtes contrainte d'aller au rattrapage et ça, pour vous, c'est un véritable électrochoc. Pourquoi ?
C'est vrai que donc j'ai eu mon bac en 2008, donc l'année de la crise des marchés financiers, donc c'était la crise chez moi aussi, parce qu'effectivement c'était un peu pour moi les années lycée une espèce de descente aux enfers. J'avais au début des facilités et puis je me suis vraiment désintéressée, et surtout la manière dont je trouve que le système éducatif est fait et l'école laïque républicaine, qui est un modèle que je défends, mais qui est un modèle qui accompagne pas nécessairement tous les types d'intelligence. Et c'est vrai que moi j'étais assez expressive, je me mobilisais un peu politiquement au sein du conseil de ma vie lycéenne, je faisais pas mal d'études aussi spirituelles, etc. Donc j'étais assez éveillée, mais pourtant le système me convenait pas du tout et je me désintéressais totalement. Enfin, je veux dire, on pouvait me dire n'importe quoi, je n'entendais pas, j'avais un problème d'attention très fort. Je pense que je suis sujet à des troubles du comportement probablement, et du coup je me suis complètement désintéressée. Le jour de mon bac, effectivement je savais rien, quoi, parce que j'avais pas relu mes fiches, enfin rien n'était rentré. Par grande chance, parce que j'avais des grandes facilités, j'ai eu une très bonne note en maths, en histoire. Mais sur le reste, c'était du 3, 2, etc. Donc j'ai mon bac au rattrapage. Donc je travaille le rattrapage. Et puis finalement, en sortant, je me dis, mais c'est tellement dommage que du coup, effectivement, parce que un système n'est pas approprié, en tout cas pour un type de personne, il n'est pas accessible. Et potentiellement, si j'écoutais ce que disaient mes professeurs à l'époque, je devais arrêter les études. Enfin, ils avaient écrit ça sur mon carnet, enfin mon bulletin, quoi. Et alors que moi, je me sentais capable d'énormément de choses. Je me sentais déjà leader, etc. à cet âge-là. Donc je me suis dit, je vais leur prouver qu'ils ont tort. Et j'ai fait une prépa ENS Cachan. J'ai fait un parcours aussi en maths à côté à Nanterre. J'ai passé les grandes écoles, j'ai raté Normal Sup, mais j'ai obtenu le M Lyon, donc c'était déjà une réussite. Enfin, qu'une élève comme moi finisse dans une top 5 des business schools français, c'était complètement dingue pour les profs quoi, de mon lycée. Donc déjà, c'est un premier message, s'il y a des très jeunes qui nous écoutent, voilà, faites attention à ce qu'on peut, le costard qu'on peut vous tailler. Et puis derrière, voilà, je me suis spécialisée, j'ai travaillé en finance, j'ai refait une licence de philo. Voilà, j'ai eu plusieurs diplômes pour prouver que c'était pas le cas, mais surtout, ce que j'ai pu expérimenter après mon bac, c'est comment est-ce qu'on passe de la théorie à l'action et des modèles en tout cas éducatifs qui étaient beaucoup plus adaptés à une personnalité comme la mienne. Et l'entrepreneuriat en fait fait partie, je pense, d'un modèle éducatif parce que je considère qu'on apprend en entreprenant qui est très pertinent. Et je pense que l'éducation théorique sur de la matière applicable n'est pas forcément pertinent et que l'éducation devrait uniquement être de l'éducation sociale en fait. Par exemple, la philosophie, je considère que c'est une étude qui permet à chacun en fait d'apprendre des modes de faire, de se questionner, et que si on a ses premières facultés, on est capable en fait un peu de tout faire. Et voilà, faut revenir aux méthodes d'apprentissage avant d'être trop dans la théorie. En tout cas, c'est mon avis.
En tout cas, c'était un joli pied de nez aux professeurs qui ne croyaient pas en vous. Mm-hmm. À l'époque, le deuxième jour où votre vie bascule, nous sommes en 2014. Vous décidez avec votre associé Julien Benayoun de lancer Lita.co. Une plateforme permettant donc aux épargnants de soutenir des projets qui font sens pour eux à partir de 100 euros. Mais pour y arriver, donc déjà il faut entreprendre, et puis il faut remporter une première épreuve, c'est obtenir l'agrément indispensable de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, alors que vous n'y connaissez rien. C'est comme Catherine tout à l'heure pour Internet. Là, c'est l'autorité des marchés financiers. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Ouais, c'est vrai que je me sentais un peu capable de tout, et ça en était encore une preuve, parce qu'à l'époque, c'est vrai que le marché du crowdfunding se développait en 2014, hein, c'est là qu'il y a eu la nouvelle réglementation, mais on était quand même entouré de personnes qui avaient 10, 15, 20 ans de private equity, de banque, et il y avait peu de jeunes entrepreneurs, en tout cas, comme mon associé et moi, à l'époque, qui avaient envie de se lancer dans cette aventure de l'equity crowdfunding,
de l'investissement.
Oui, de l'investissement, effectivement. Et nous, d'ailleurs, quand on allait voir des VC à l'époque, ils nous disaient, vous devriez peut-être... des fonds d'investissement.
français,
on est sur les
finalement.
Échos ou pas, là? non, pardon. Ils nous disaient il fallait mieux qu'on se redirige vers l'activité de don ou la rigueur de prêt, mais que l'investissement, c'était fait pour les pros de l'investissement. Et nous, on n'était pas d'accord parce qu'on voyait ce qui était investissable. Et on se disait, c'est pas vraiment les solutions d'avenir que nous, on imagine. Et on voyait qu'il y avait un vrai gap sur la question de l'innovation sociale et écologique, et que cette innovation n'était pas financée. Donc il fallait la financer différemment peut-être, avec d'autres profils. Et pour nous, le profil capable de financer cette innovation, c'était le citoyen. Donc ça nous paraissait évident qu'il fallait lancer une initiative citoyenne pour faire émerger cette innovation-là. Donc par contre, on se retrouve effectivement pendant le projet de loi donc, auquel on a contribué, avec du coup un agrément AMF à obtenir, alors qu'on nous vantait dans nos écoles de commerce le modèle de l'entrepreneuriat comme étant un moyen de se tester. Enfin voilà, on ne pensait pas arriver sur un marché aussi régulé, quoi. Justement, sur quelque chose de très libre, etc. Et là, on se prend déjà le poids de la réglementation avant même d'avoir testé notre premier marché. Donc, ça, c'est la réglementation financière. Et au final, ça nous a accompagnés, ça nous a professionnalisés. C'était une vraie formation. Après, c'était beaucoup de harcèlement de nos interlocuteurs à l'AMF qu'on a dû faire pour pouvoir obtenir l'agrément. Et aussi, on a dû feinter, hein, une connaissance. Enfin, moi, j'avais pas l'AMF au tout début. Maintenant, vous inquiétez pas, on est très structuré. Mais à l'époque, j'avais l'AMF au téléphone qui faisait référence à des articles du Code monétaire et financier auxquels j'avais jamais vu. Je disais oui, tout à fait, oui. Et puis on regardait en parallèle. Et puis au final, on a bossé jour et nuit pendant 4 mois. On a obtenu notre agrément. Et on a été la première plateforme à avoir obtenu notre agrément. Ou la deuxième, c'était vraiment le premier batch, la première semaine, sans juriste, alors qu'ils avaient tous des armées d'avocats, donc on était assez fiers. Et je pense que cette première réussite, on s'est dit, ok, donc toutes les étapes d'après, ça va être easy si on a réussi à embarquer l'AMF avec nous, quoi.
Bravo. Eva Sadoun, Catherine Barba, vous avez plusieurs points communs. Le premier, c'est que vous avez commencé à entreprendre très tôt en étant chacune pionnière dans vos domaines respectifs, on vient de le voir. Le deuxième point commun, c'est ce qui vous anime, c'est-à-dire accompagner la transformation de notre société. Et vous avez la conviction que ça passe par l'économie, toutes les deux. Autre point commun, votre capacité à convaincre, à prendre la parole, à diffuser autour de vous, à soutenir aussi ainsi les autres femmes. Et puis un dernier point commun, c'est le pape. Et j'en dirai pas plus pour l'instant. Je vous propose d'échanger sur ces sujets en regard croisé avant de terminer par un petit portrait chinois. Vous avez chacune un temps d'avance et ce qui vous anime, c'est vraiment de transformer de manière globale. Catherine, vous, vos conférences, vos livres, vos interventions ont d'abord contribué à changer l'image de l'entrepreneur en France. Vous en avez été une des pionnières, vous êtes d'accord, notamment dans le digital. Et aujourd'hui, votre dernier projet, c'est d'accompagner la mutation du monde du travail et le boom des entrepreneurs indépendants. Pourquoi vous avez souhaité vous lancer dans cette aventure? Est-ce que vous pouvez nous raconter?
Je veux bien, mais j'ai envie de dire un petit truc sur Eva.
Eh bien, bien sûr,
je l'ai entendu, j'ai trouvé ça génial. Tu vois, je ne sais pas les points communs qu'on a, certainement, c'est ceux qui ont été dits, mais je t'écoute et je vois, tu vois, toute l'énergie qu'il faut, parce que pour changer les choses, changer peut-être le monde, en tout cas changer son écosystème, il en faut de l'énergie. Et il faut être curieux, il faut être enthousiaste et il faut rien lâcher. Et c'est ce que j'ai entendu dans ce que tu racontais. Et ça, ça me parle. Ça me parle parce que c'est ce qui embarque, c'est ce qui fait qu'on est... C'est un point commun qu'on a aussi avec Marie, c'est qu'on est des bougeuses. Donc, il y a cette énergie à la base. Oui, transformer. Moi, je reviens des États-Unis et je, comme vous, j'observe. Tout commence par le regard. Toute action commence par un regard, ce que tu portes sur l'environnement, sur les besoins mal adressés. Et puis tu te dis, est-ce que je suis capable, dans tout ce que j'ai fait avant, d'y répondre? Si la réponse est oui, partiellement même, il faut foncer. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me réalise. J'ai envie de construire le monde dans lequel j'aspire à vivre. Donc aujourd'hui, je pense que le vrai sujet, c'est l'emploi. C'est la transformation du travail, c'est le chômage qui va arriver. Malheureusement, dans les grandes entreprises, les plus petites aussi, et je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Le salariat, c'est peut-être plus le modèle. Tu vois, et les indépendants sont en train de croître de manière assez exponentielle. Mais c'est pas facile d'être indépendant. Le statut est très précaire, il faut tout faire, l'argent arrive de façon erratique, et puis on est très seul. N'empêche que quand l'emploi salarié est menacé, il faut quand même regarder peut-être d'un peu plus près ce statut-là. Moi, je suis persuadée qu'on peut accompagner ce déport de création de valeur économique des grandes entreprises vers les individus, qui va nécessairement arriver dans les années qui viennent. Et c'est pour ça que j'ai envie de créer une passerelle pour accompagner le maximum de Français qui vont se retrouver sur le carreau à avoir une deuxième partie de carrière réussie en se redécouvrant capable de faire. Toi, tu t'es découverte, Eva, assez tôt, capable de faire. Peut-être parce que tu étais bien entourée, peut-être parce que tu as ce petit moteur en toi, mais peut-être que des gens aussi l'ont éveillée. Et moi, j'ai envie de l'éveiller chez des gens. Je connais bien les grands groupes et les grandes organisations. Je connais l'entrepreneuriat depuis longtemps. Je pense qu'être la bonne personne pour être cette passerelle. Et donc, je vais créer cette école. Et ça me motive beaucoup, tu vois, de me dire que je vais contribuer. Il y a un impact. Je le fais pas, je le fais parce que ça m'anime, mais parce qu'aussi j'ai envie de contribuer. Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire maintenant, il n'y a plus qu'à. L'idée, c'est formidable. Maintenant, il y a l'exécution. Et je suis bien entourée et ça va prendre du temps parce que c'est assez complexe, mais je monte cette école des indépendants rentables.
C'est vraiment ça, c'est entreprendre avec impact qui vous définit aussi toutes les deux. Vous, Eva, c'est vraiment transformer par la finance responsable, par les transitions sociales et écologiques. Et vous faites plein de choses à ce sujet-là. Vous avez l'application Rift, vous avez le mouvement Impact France et puis vous avez la plateforme pour investir. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans tout ça, quand vous vous engagez dans une transformation globale pour qu'il y ait plus de conscience vers le social, vers l'écologie? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Sachant que, j'ai vu cette citation d'Albert Einstein que j'aime beaucoup, il est plus facile de désagréger un préjugé qu'un atome. Donc bon courage.
Ouais, pour le coup, on est plein de préjugés sur la question de la finance, donc c'est un sujet qui doit être pris par plein de bouts. Et c'est pour ça que, effectivement, les initiatives que je porte, elles sont diverses. Et c'est comme sur la question de l'auto-entrepreneuriat, j'imagine, c'est que il faut des solutions, il faut de la formation, de l'éducation, il faut aussi que le réglementaire bouge. Enfin, en fait, il faut aborder, il faut que les entreprises bougent, il faut être capable d'accompagner. Donc, du coup, il y a effectivement plein de leviers différents. Et dans la finance, c'est pareil, c'est que ça doit passer par la prise de conscience individuelle de la question de l'épargne, de son impact écologique et sociale. C'est pour ça qu'on a développé Rift, du coup, qui est une forme de Yuka de la finance, qui participe à cette prise de conscience. Mais après, donc Yuka va proposer un autre produit à acheter. Nous, quand on propose des produits financiers, on n'est pas encore très fiers, parce que même le secteur financier, même quand il est responsable, il n'est pas du tout au niveau d'exigence qu'on a. Donc, on doit aller travailler avec les entreprises. Donc, on travaille avec des banques, etc. Et on fait du lobby interne pour les aider à proposer des produits beaucoup plus alignés avec cet enjeu. Sauf qu'eux ne bougent pas si leur client ne les fait pas bouger. Donc, on va réutiliser Rift pour pouvoir en fait les mobiliser sur, par exemple, un moment de souscription et exiger de leur banque qu'elle vote à l'Assemblée Générale de Total un scénario 1,5 degré.
Parce que t'as peur de rien, toi, hein.
Non, je vais sur... Je ne suis pas allée dans l'écosystème le plus le moins menaçant.
On y croit.
Et puis voilà, et à côté, pour avoir de la finance responsable, il faut de l'économie responsable. Donc comment on fait pour développer cette famille d'économie responsable? Eh bien, on doit le développer en changeant aussi la représentation et en permettant que le réglementaire favorise les entreprises qui ont un impact social et écologique positif. Donc là, comment on le fait? On le fait avec le mouvement Impact France. On essaye d'avoir une alternative sociale et écologique au MEDEF qui, derrière, peut pousser des réformes qui accompagnent les entreprises à ne plus avoir cette primo vis. Ça veut dire que ça coûte moins cher d'émettre, ça coûte moins cher de délocaliser, ça coûte moins cher de ne pas respecter nécessairement les engagements éthiques. Donc, on l'a développé avec le mouvement Impact France. Il faut participer à une prise de conscience. Donc, en ce moment, j'essaie d'écrire un livre sur la question de l'économie durable. Voilà. Donc, en fait, le problème, c'est que les leviers sont multiples.
Et c'est un cercle vertueux en même temps.
C'est un cercle vertueux.
Mais ça prend du temps.
Mais ça prend du temps et surtout que c'est, dans l'entrepreneuriat, c'est pas toujours facile parce que, notamment quand on va voir des fonds, ils sont très habitués à des modèles uniques, ultra scalables, qui du coup, en fait, ont une trajectoire de croissance qui est très claire. Alors que nous, ce qu'on essaie de leur expliquer, c'est que c'est en passant par, justement, plusieurs outils qu'on arrivera à démocratiser et à changer l'écosystème et à rendre ces solutions demain pérennes. Donc voilà un peu toute la problématique, mais je pense que vous en parliez du fait qu'on passe d'un milieu un peu corporatiste à un milieu individuel. Ben, je pense qu'en fait, chacun va avoir besoin de se développer de cette manière-là, d'un point de vue politique, d'un point de vue professionnel et d'un point de vue personnel. Donc, c'est une transition qu'on constate.
Pour vous deux, c'est par l'économie qu'on change la société aujourd'hui?
Ça commence par soi, déjà. Tu vois, moi, je compte toujours d'abord sur moi pour changer les choses et après embarquer le plus de gens possible. J'attends pas que les choses arrivent, tu vois. Le changement, c'est pas quelque chose que t'observes, c'est quelque chose que tu inities. Je pense que pour changer, que ce soit dans la finance comme dans le sujet de l'emploi ou tout autre sujet, c'est bien d'avoir une vision soi-même, tu vois, et une vision qui a été bien pensée et qui relève encore une fois du regard qu'on a porté sur son environnement. Il faut aussi, c'est important, en tout cas dans mon cas, et j'imagine que c'est la même chose dans ton cas, Eva, c'est regarder qui sont l'obstruction, elle vient d'où? Parce qu'il y a quand même des forces contraires dans tout ça. Et bien les identifier. Qui sont les vents contraires pour pouvoir les dépasser? Et ensuite, qui sont tes alliés? Qui sont tes meilleurs alliés pour aller plus vite, tu vois? Donc dès lors que tu as une bonne vision, que tu as identifié les éléments d'obstruction et que toi, tu te dis, je sais qui sont les gens qui vont m'aider à aller plus vite, bon, oui, et c'est ça l'économie, au fond. Tu vois des risques, mais tu vois une opportunité dedans.
Eva, si par l'économie, qu'on change le monde?
Ouais. C'est la question.
On est
parti. Captivée par Catherine.
Oui. Oui, parce que c'est l'économie qui structure en fait nos rapports sociaux. Enfin, pas heureusement en fait, pour moi. Mais aujourd'hui, faut pas se mentir. On est dans une société dans laquelle, enfin, même le pacte européen ou le pacte individuel est défini par l'économie. Et surtout, en fait, les disparités économiques. Neutralise en fait la capacité de changement culturel de la société. Donc, pour être capable d'imaginer une paix sociale, pour moi, il faut effectivement un rapport économique qui est plus sain. Et surtout, c'est aussi l'économie qui est responsable des externalités environnementales les plus fortes. C'est
de l'impact.
70% des émissions mondiales qui sont causées par 100 entreprises. Donc, c'est en fait au niveau économique qu'on doit changer les choses si on veut même imaginer continuer de vivre sur une planète dans laquelle on peut respirer. Quoi. Donc,
après, ouais, dans l'économie, clairement. On injecte autre chose, tu vois, parce qu'on est, nous sommes des êtres humains. Mmh. Donc, il y a toute la dimension individuelle, humaine, personnelle. Si tu veux aussi faire bouger les mentalités, le changement culturel, c'est ça le plus difficile. Donc, tu parles à la tête, mais tu parles aussi au cœur. Donc, écrire un livre, c'est bien. Il y a d'autres leviers, mais... Mmh.
C'est quand même une aventure d'une vie hein, de bouger les lignes.
C'est sûr. Autre point commun, vous êtes toutes les deux expertes. Vous prenez très régulièrement, très très souvent d'ailleurs, la parole dans les médias, dans les conférences. Vous êtes vraiment des leaders ou leaders d'opinion. Est-ce que ça a été naturel pour vous? Est-ce que c'est facile, ces prises de parole, vos actions? Ou est-ce que vous avez dû travailler sur ça, vous entourer? Eva, Sadoun?
En fait, c'était évident pour moi que quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat était un outil pour développer une vision plus globale. Donc, j'avais pas envie de développer un produit, j'avais envie de changer un secteur. Donc, naturellement, ça s'est ressenti en fait quand un média m'interviewait, etc. Et du coup, ça a plu, c'était atypique. Je pense que ma jeunesse et le fait que je sois dans ce secteur, ça a aussi amusé beaucoup de médias. Et ça a fait de moi en fait une figure ensuite assez emblématique. Et puis, le fait d'incarner différemment aussi l'économie, je pense que c'est important. Alors, j'imagine même pas à ton époque le fait d'être une femme dans le milieu de la tech. Voilà.
C'était... On n'est pas non plus hyper vieille, hein.
Ouais, mais c'est encore compliqué aujourd'hui.
Il y a 15 ans d'écart,
c'est vrai. Tu vois. Bah oui, 15 ans d'écart, et puis c'est encore un problème aujourd'hui, donc j'imagine pas il y a 15 ans comment
c'était. C'était très exotique, quoi. C'est ça. Moi, j'aimais bien l'exotisme.
Et je pense que déjà, en ayant de nouveaux leaders, nouvelles figures, on est capable de changer en fait l'économie, même sans se préoccuper de la manière dont elle fonctionne. Donc c'est aussi ça que j'ai voulu incarner. Et voilà, donc c'est très naturel, et puis je pense qu'on a besoin aussi d'incarner différemment ce milieu-là et de le transformer, parce que les dernières stats de ce matin m'ont désolé. Il y a encore que 3% des startups l'année dernière qui ont été fondées par des équipes 100% féminines, alors que c'est 80% par des équipes 100% masculines. Et il y a aussi effectivement 10% des boîtes qui sont cofondées par des femmes, qui sont financées par des VC. Enfin bon, en tout cas, les stats sont encore déplorables aujourd'hui. Et c'est vrai que le sujet de qui détient le capital, qui a l'argent, d'ailleurs, il y a un bouquin qui est génial là-dessus qui s'appelle Le genre du capital, qui montre en fait que le capital est économique et financier, il s'hérédite en fait d'homme à homme et il se transmet jamais à la femme, même dans les familles fortunées, les femmes récupèrent souvent la propriété ou le cash, mais pas en tout cas l'économie. Et tant qu'en fait les femmes ne reprendront pas le pouvoir dans les fonds ou le pouvoir financier, on ne sera pas capable de voir émerger une nouvelle économie.
Et il y a un chiffre d'ailleurs vraiment frappant, c'est 42% d'écart de salaire au sein d'un couple en France, chiffre de l'INSEE. Donc comment Il y a encore beaucoup de travail. Et vous, Catherine, par rapport à cette place d'experte, vous êtes toujours sentie légitime, c'était naturel. Et est-ce que vous sentez aussi cette responsabilité, comme Eva, d'entraîner derrière vous d'autres femmes sur ce chemin-là, de la visibilité, de l'impact, de la responsabilité, etc.
Ouais. C'est marrant, je suis pas fan du mot experte. Pour moi, l'expert, c'est quelqu'un qui est sûr de son fait, tu sais, et qui se remet pas en cause et qui a des solutions d'hier aux problèmes de demain. Je sais pas si je suis experte. Moi, je suis plus une exploratrice, en fait, tu vois. Et ça me caractérise davantage. Après, quiconque, c'est ce que je dis à ma fille de 18 ans, tu peux devenir expert, enfin, bon dans un sujet dès lors que tu bosses ce sujet. Tu es légitime pour être bonne sur un sujet parce que tu vas te passer du temps, tu vois. Eva, elle a travaillé sur la finance, elle aurait pris n'importe quel autre sujet, elle aurait la même légitimité et le même savoir parce que tu vas le creuser. Donc après, c'est juste là où ça fait écho à tes convictions profondes et à ce qui t'anime dans la vie. Donc moi, j'ai cette curiosité-là. Après, quand j'étais plus jeune, je détestais prendre la parole en public. J'avais la trouille, j'avais des plaques rouges sur le cou quand j'étais devant un micro. Je révisais toute la nuit, je me le répétais 10 fois de suite, mon texte. Voilà, donc après, c'est pareil, à force de le faire, tu deviens bon, tu ne te poses plus la question. Donc la bonne nouvelle, c'est que... On y arrive. Si c'est ton histoire, tu vas le faire. Tu vois, tu vas y arriver. Donc, moi, non, au début, je le faisais pas de gaieté de cœur. On me poussait, on me disait, vas-y, dis-le, c'est toi qui es là. Tiens, va parler d'Internet un peu à tout le monde. Bon, d'accord. Après, c'est va parler des femmes. Bon, d'accord. Puis après, ça vient. Et puis, tu vois, si tu vois que c'est fertile, eh ben, tu as envie de continuer. Parce que tu vois bien que tu as un devoir de give back. Moi, je crois que j'ai reçu tellement que j'ai envie de partager aujourd'hui. J'ai envie de transmettre. Et puis la joie, ça se transmet, la bonne humeur, ça se transmet, et l'espérance, ça se transmet.
Et votre rôle de locomotive pour les autres femmes, vous le voyez l'une comme l'autre?
Je sais pas, moi je pense que j'en suis encore barbare, j'en ai ras-le-bol, ça va, mais les usual suspects, ça suffit, quoi. Donnez-nous des jeunes, faites venir Eva et les autres. Je sais pas. En tout cas, je pense que j'ai des. On donne jamais de conseils parce que finalement, il y a que l'action qui compte. C'est pas la théorie, c'est la pratique. Ça, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Mais
Mais il y a des choses sur que j'ai apprises sur ma route ou que j'ai vécues et que je transmets dans les boîtes dans lesquelles j'ai investi ou avec les jeunes avec qui je travaille. Tu vois, là, je suis avec Lila qui est en stage avec moi et je trouve ça génial de pouvoir partager des choses. Je ne sais pas ce qu'elle en gardera, mais je sais que j'ai envie de transmettre. Donc, tu fais, tu ne te poses pas de questions, en fait. Hein, non, toi, tu t'en poses.
Non, c'est ça, en fait. C'est que ça vient naturellement et c'est vrai que... C'est ce que j'ai un peu vécu aussi, ce que tu dis, c'est que les gens, en fait, t'utilisent à un moment et trouvent que t'es une bonne personne pour pouvoir porter ces combats-là. Et puis ensuite, tu les portes ensuite. Moi, le seul truc qui m'intéresse, c'est de créer des choses et ensuite les mettre aux mains de quelqu'un d'autre. Par exemple, là, sur le mouvement Impact France, moi, le but, c'est que ça puisse devenir une alternative sociale écologique au MEDEF et que je fasse émerger ça. L'idée, se questionner sur le besoin d'avoir effectivement cette alternative. Et là, on l'a vu pendant la loi climat, les cabinets ministériels nous l'ont dit. Enfin, si vous n'êtes pas là pour nous proposer des amendements économiques pertinents sur la question écologique et sociale, il n'y a personne pour nous en proposer parce qu'on a le MEDEF qui nivelle vers le bas les propositions ambitieuses d'un point de vue climatique. On a des militants qui sont très pertinents du point de vue des engagements mais qui ne savent pas nécessairement transposer ça d'un point de vue économique. Donc là, on voit le sens. Sur IFT, c'est pareil. Enfin, le but, c'est de faire émerger ces solutions-là et ensuite de les offrir, de les donner à d'autres pour pouvoir... voilà. Donc moi, mon but, c'est de créer des solutions et ensuite de les faire porter par d'autres.
Le temps file. Dernier point commun qui peut sembler anecdotique, mais qui ne l'est pas, c'est que vous avez toutes les deux rencontré le pape. Alors, le pape Jean-Paul II, pour vous, Catherine, le pape François, pour vous, Eva. Ce n'est pas anecdotique pour vous, Catherine. On en a discuté en préparant ce podcast, parce que la foi, c'est ce qui vous porte au quotidien en tant qu'entrepreneur. C'est ce qui vous donne envie d'entreprendre.
Enfin, en tant qu'humain, déjà. C'est quelque chose qui est ancré dans ma vie. C'est pas banal d'en parler. Je sors un peu du bois en ce moment. Je parle tout le temps de ma foi, j'ai l'impression. Peut-être que c'est le moment est là, je ne sais pas pourquoi. Mais je pense que c'est...
C'est né très jeune.
Oui, la confiance que j'ai. Parce que faire, entreprendre, à la base de tout, il y a la confiance. Quelle que soit l'action que l'on porte. Et moi, cette confiance, elle m'est née, comme tous les gens qui en ont, j'imagine, de l'amour. Et cet amour, il est multiforme. Ça peut être l'amour de parents, de proches, de mentors, mais aussi il y a un amour qui est plus grand que toi et que tu sais pas, tu lui donnes le nom que tu veux, mais c'est une présence invisible et enfin aimante. Et moi, c'est quelque chose qui occupe ma vie et qui a été une rencontre quand j'étais plus jeune, petite même, et qui m'accompagne au quotidien. Donc oui, ma foi, ça fait partie de ma vie de maman, de copine, de fille et d'entrepreneur. Et qui me fait avancer, ça c'est sûr. J'ai pas peur en fait, c'est ça qui est bien. Je suis pas toute seule en fait.
Et comment vous avez rencontré le pape alors ?
Eh ben le pape, j'étais au collège, j'étais en troisième à Danielou dans le 92 à Rueil-Malmaison et il y avait un voyage en troisième à Rome tous les ans, tu vois. Et donc, on dormait au Vatican, le voyage que tu prépares toute l'année, tu révises des tonnes de choses. Et il y a l'audience avec le pape et on se lève toutes comme un seul homme pour lui chanter une chanson en polonais. Et voilà, et il passe dans les allées, et il me touche la main et je sais pas, il me... Le truc de dingue, quoi. Tu touches la main du pape, je ne me la suis pas lavée pendant une semaine. Et, je ne sais pas, j'avais un... c'est des petits symboles. Après, tu y mets ce que toi, tu veux, au fond. Mais non, c'était un beau... ça reste un beau souvenir. Toi aussi, tu as rencontré le... C'est pas le même, hein.
Alors, Eva. Ouais,
le pape François, il y a un mois et demi, à peu près, c'était une rencontre qui avait été négociée par Pierre Larouturou, qui est un eurodéputé qui travaille beaucoup sur les sujets, justement, transition écologique et finance. Et en fait, le Vatican lui a demandé d'identifier des personnes qui portaient aujourd'hui des vraies solutions au problème du financement de la transition écologique. Donc on était avec Cyril Dion qui est réalisateur et garant de la Convention citoyenne pour le climat et Samuel Jivovski qui lui travaille sur le dialogue interreligieux avec le mouvement Coexister. Et on a été tous les trois du coup rencontrés dans une audience privée, le pape pendant, ça devait durer 15 minutes, ça a duré 45 minutes.
C'est dingue.
C'était fou. Et chacun en a présenté en fait nos solutions et les modèles qu'on portait parce qu'on voulait qu'il les présente lors du discours de Pâques et il a parlé de certaines choses parce que effectivement pour lui et c'est pour ça qu'on nous a identifiés, la France porte des solutions sur cette question du financement de la transition écologique ou de la démocratie très innovantes par rapport au reste du monde et il avait envie d'illustrer ça et ce qu'il nous a dit pour finir par ça c'est que voilà, il avait un peu peur aujourd'hui et que pour lui la finance, en fait, le sujet qu'on traite, hein, était vraiment un brouillard et qu'il fallait lever ce voile si on voulait retrouver le chemin d'une société qui était notamment moi, ce qui m'intéresse, parce que je suis pas croyante pour le coup, enfin pas de cette religion particulièrement, c'est que ce qui m'intéresse beaucoup dans son discours, c'est que c'est un leader spirituel déjà qui prône l'interreligieux et qui travaille à bâtir une maison commune pour tous. Je trouve que Laudato Si et Fratelli Nostri sont deux encycliques extrêmement avant-gardistes sur ces questions de transition écologique.
Et puis ancrées dans l'économie d'aujourd'hui, et précisément, tu vois.
Et puis technique, ouais, c'est ça. Et je comprends tout à fait, Catherine, quand vous n'êtes pas lavé la main pendant une semaine après avoir rencontré le pape, parce que moi, j'ai eu la chance, pas de rencontrer le pape, mais le Dalai Lama, et il m'a pris la main pendant... J'étais jeune stagiaire. Il m'a pris la main pendant toute l'interview et je ne me suis pas lavé la main non plus pendant une semaine. Donc, je comprends et...
Merci. L'hygiène, c'est très surfait. Hein.
Oui. Surtout en ce moment. Merci à toutes les deux. On va passer au portrait chinois. Un échec. Eva ?
Un échec ?
Oui.
Ok, pendant que tu réfléchis, je te dis les miens. J'ai Catherine. Eu mon permis de conduire au bout de 4 fois.
Oh. Eva ?
Non, mais horrible. Ça a coûté une fortune à mes parents. Pardon, papa, maman.
Surtout que vous êtes venue en taxi.
Oui. Et en plus que je suis administratrice du groupe Renault. C'est quand même un paradoxe. Je ne l'aurais pas dit, dans le doute.
Non, l'échec, je pense que ça a été de me mettre de côté pendant plusieurs années. Ça fait 5 ans que vraiment je me mets moi personnellement de côté au service de mes projets. Et je pense que même pour redonner plus de corps et à mes projets, il faut que je me remette un peu au centre aussi de ce développement. Voilà.
Le conseil que vous vous donneriez à vous-même à 20 ans, si vous aviez vous-même en face de vous à l'âge de 20 ans, qu'est-ce que vous lui diriez ? Catherine.
Qu'est-ce que je me dirais à moi à 20 ans ? Ça va bien se passer.
Eva ?
Ne t'inquiète pas, t'es plus forte qu'eux.
Ce qui vous ressource ?
Alors moi, en vrac, c'est la prière, la Corse, le vin, les amis, la famille, les bouquins, l'amour, mon mari.
Eva ?
Ouais, l'amour, l'écriture, la musique, le yoga, beaucoup le sport et me sentir connectée aux autres.
La discipline de vie qui vous sauve ?
Le yoga matinal.
Tous les matins ?
Tous les matins.
Et moi, c'est la prière matinale. Tous les matins.
De quoi n'avez-vous plus peur ? Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas peur de grand-chose toutes les deux. Eva ?
De l'échec.
Alors moi, des cintres en métal. Avant, j'avais peur des cintres en métal. J'avais une espèce d'aversion pour cet objet. Et maintenant, ça va, j'ai complètement dépassé le cintre.
Ça va si c'est la seule peur, ça va. Qu'avez-vous accepté de la vie, Catherine ?
Ah ben, j'accepte de vieillir parce que quand même, j'approche de 50 ans et je me dis, si tu vieillis pas, tu meurs. Donc, c'est là, dans l'alternative, c'est pas mal. En fait, c'est pas génial, mais c'est pas grave.
J'accepte maintenant de plus tout contrôler. J'avais beaucoup de mal avec ça avant et je pense que ça vient de mon signe vierge aussi. Mais voilà, j'avais vraiment besoin de tout contrôler pour me sentir en sécurité. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. J'accepte que les choses se fassent. Voilà.
Ce sur quoi vous travaillez pour progresser, Catherine ?
Ma capacité d'écoute.
Eva ?
La perfection. Le fait de vouloir être meilleure, plus documentée. Et puis surtout d'avoir, et je pense que ça c'est quelque chose de très féminin, de chercher la perfection sur tous les pans de sa vie. D'être toujours, toujours in shape, d'avoir la meilleure boîte, d'être toujours le plus lettré. D'avoir la vie sentimentale et personnelle la plus équilibrée, enfin voilà, et ça c'est ça, il va falloir que je lâche l'affaire sur un point.
On peut être aimé sans être parfait, c'est ça,
oui,
la bonne nouvelle.
Merci.
Il n'y a pas besoin.
Ce qui a pris plus de temps que prévu.
D'arriver à trouver un équilibre entre l'épanouissement de mon boulot, être présente pour ma fille et mon mari. Ça peut être une vraie tarte à la crème, cet équilibre-là, mais ça n'en est pas un, c'est pas simple. Tu vois, d'arriver à trouver ma place dans tout ça et pas avoir le sentiment de laisser un aspect pour être sur l'autre. De pouvoir à peu près gérer tout. Pas génial, mais de mieux en mieux.
Eva ?
Une question que j'ai toujours pas résolue non plus, c'est est-ce que c'est possible réellement d'avoir une vie professionnelle, en tout cas au niveau auquel je l'imagine, et personnelle épanouie ?
Votre mantra ?
no cash, no deal. Non, non. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Mieux qu'un ami, un client non plus. Non, mais le mantra, c'est qu'il faut du recul et de l'humour. T'avais du bien.
Eva ?
Ouais, mon mantra, c'est effectivement que si j'ai plus envie d'être là, ou en tout cas quand je sens l'angoisse m'emporter ou la peur, c'est que je suis pas du tout au bon endroit. Et pour moi, c'est plutôt un indicateur que je suis pas au bon endroit. C'est pas quelque chose qui me neutralise. Ouais.
Merci Catherine Barba, merci Eva Sadoun, merci à vous toutes et tous qui nous écoutez. Un immense merci à Alban Fili, merci à Zaya Cassel et à la Dream Team des Échos pour l'organisation. Si vous avez aimé ce podcast, je vous remercie de le préciser avec un 5 étoiles, cela nous aidera à continuer sur cette voie. Merci aussi pour vos commentaires que j'ai hâte de lire. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast « Elles ont osé » avec les Échos. D'ici là, gardons précieusement en nous cette citation de Goethe qui correspond si bien à l'esprit de ce podcast. « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. »
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.